Quatrième partie, chapitre 18. Après les ciels changeants du mois de mai, où le souffle de la mer Noire s'obstine à promener encore tant de nuages chargés de pluie froide, le mois de juin avait déployé tout à coup sur la Turquie le bleu profond de l'Orient méridional. Et l'exode annuel des habitants de Constantinople vers le Bosphore s'était accompli. Le long de cette eau, presque tous les jours, remuée par le vent, chaque ambassade avait pris possession de sa résidence d'été sur la côte d'Europe. André Léry, donc, s'était vu obligé de suivre le mouvement et de s'installer à Therapia, sorte de village cosmopolite, défiguré par des hôtels monstres où sévissent le soir des orchestres de café-concert, mais il vivait surtout en face, sur la côte d'Asie, restée délicieusement orientale, ombreuse et paisible. Il retournait souvent aussi à son cher Stamboul, dont il était séparé là par une petite heure de navigation sur ce Bosphore, peuplé de la multitude des navires et des barques qui sans trêve montent ou descendent. Au milieu du détroit, entre les deux rives bordées sans fin de maisons ou de palais, c'est le défilé ininterrompu des paquebots, des énormes vapeurs modernes, ou bien des beaux voiliers d'autrefois cheminant par troupes dès que s'élève un vent propice. Tout ce que produisent et exportent les pays du Danube, le sud de la Russie, même la Perse lointaine et le Boukhara, s'engouffrent dans ce couloir de verdure, avec le courant d'air perpétuel qui va des steppes du Nord à la Méditerranée. Plus près des berges, c'est le va-et-vient des embarcations de toutes formes, yoles, caïques et filets, que montent des rameurs brodés d'or, mouches électriques, grandes barques peinturlurées et dorées où des équipes de pêcheurs rament debout, étendant leurs longs filets qui accrochent tout au passage. En traversant cette mêlée de choses en marche, de continuels et bruyants bateaux à roues, du matin au soir, transportant entre les échelles d'Asie et les échelles d'Europe, les hommes aux fesses rouges et les dames aux visages cachés. De droite et de gauche, le long de ce Bosphore, 20 kilomètres de maisons, dans les jardins et les arbres, regardent par leurs myriades de fenêtres ces empressements qui ne cessent jamais sur l'eau verte ou bleue. Fenêtres libres ou fenêtres si grillagées des impénétrables harems. Maisons de tous les temps et de tous les styles. Du côté d'Europe, hélas, déjà quelques villas baroques de levantins en délire, façades composites ou même art nouveau, écœurantes à force des harmonieuses demeures de la vieille Turquie, mais noyés encore et négligeables dans la beauté du grand ensemble. Du côté d'Asie, où n'habitent guère que des Turcs, dédaigneux des pacotilles nouvelles et jaloux de silence, on peut, sans déception, longer de près la terre, car il est intact le charme du passé d'Orient qui plane encore là partout. À chaque détour de la rive, à chaque petite baie qui s'ouvre au milieu des collines boisées, on ne voit apparaître que choses d'autrefois, grands arbres, recoins d'oriental mystère. Point de chemin pour suivre le bord de l'eau, chaque maison, d'après la coutume ancienne, ayant son petit quai de marbre, séparé et fermé, où les femmes du harem ont le droit de se tenir, en léger voile, pour regarder à leurs pieds les gentils flots toujours courants, et les fins caïques qui passent arqués en croissant de lune. De temps à autre, des criques ombreuses et si calmes, emplies de barques à longue antenne. De très saints cimetières, dont les stèles dorées semblent s'être mises là bien au bord, pour regarder, elles aussi, cheminer tous ces navires et se mouvoir en cadence tous ces rameurs. Des mosquées sous de vénérables platanes plusieurs fois centenaires, des places de villages où des filets sèches pendus aux ramures qui font voûte, et où les rêveurs à turban sont assis autour de quelques fontaines de marbre, inaltérablement blanches avec pieuses inscriptions et arabesques d'or. Quand on descend vers Constantinople, venant de Thérapia et de l'embouchure de la mer Noire, cette féerie légendaire du Bosphore se déroule peu à peu en crescendo de magnificence jusqu'à l'apothéose finale qui est au moment où s'ouvre la Marmara. Alors, sur la gauche apparaît Scutari d'Asie, et sur la droite, au-dessus des longs quais de marbre et des palais du sultan, le haut profil de Stamboul se lève avec ses amas de flèches et de coupoles. Tel était le décor à changement et à surprise dans lequel André Léry devait vivre jusqu'à l'automne et attendre ses amis, les trois petites ombres noires qui lui avaient dit « Nous serons aussi pendant l'été au Bosphore, mais qui depuis tant de jours ne donnaient plus signe de vie. » Et comment savoir à présent ce qu'elles étaient devenues, n'ayant pas le mot de passe pour leur vieux palais perdu dans les bois de Macédoine. Chapitre 19. Djenan à André. Bounarbashi, près de Salonique, 20 juin 1904. Votre amie pensait à vous, mais pendant des semaines, elle était bien trop gardée pour écrire. Aujourd'hui, elle voudrait vous conter sa pâle petite histoire, son histoire de mariage. Subissez-la, vous qui avez écouté celle de Zeyneb et de Ménèque avec tant de bienveillance, à Stamboul, si vous vous rappelez, dans la maisonnette de ma bonne nourrice. Moi, l'inconnu que mon père m'avait donné pour mari, André, n'était ni un brutal, ni un malade. Au contraire, un joli officier blond, aux manières élégantes et douces, que j'aurais pu aimer. Si je l'ai exécré d'abord en tant que maître imposé par la force, je ne garde plus à présent contre lui aucune haine. Mais je n'ai pas su admettre l'amour comme il l'entendait. Lui a un amour qui n'était que du désir et restait si indifférent à la possession de mon cœur. Chez nous, musulmans, vous savez combien dans une même maison, hommes et femmes vivent séparés. Cela tend à disparaître, il est vrai, et je connais des privilégiés dont l'existence se passe vraiment avec leur mari. Mais ce n'est point le cas dans les vieilles familles strictement pratiquantes comme les nôtres, où résident les hommes, nos maîtres, sont des demeures tout à fait distinctes. J'habitais donc notre grand harem princier avec ma belle-mère, deux belles-sœurs et une jeune cousine de Hamdi nommée Durdané. Celle-ci jolie, d'une blancheur d'albâtre, avait des cheveux au nez ardent, des yeux glauques, des prunelles comme phosphorescentes dont on ne rencontrait jamais le regard. Hamdi était fils unique et sa femme fut très choyée. On m'avait donné tout un étage du vieil hôtel immense. J'avais pour moi seul quatre luxueux salons à l'ancienne mode turque, où je m'ennuyais bien. Pourtant, ma chambre à coucher était venue de Paris, ainsi que certains salons Louis XVI, et mon boudoir où l'on m'avait permis d'apporter mes livres. Oh, je me rappelle qu'en les rangeant dans de petites armoires de laque blanche, je me sentais si angoissé à songer que là où ma vie de femme venait de commencer, elle devait aussi finir, et qu'elle m'avait déjà donné tout ce que j'en devais attendre. C'était donc cela le mariage, des caresses et des baisers qui ne cherchaient jamais mon âme, de longues heures de solitude, d'enfermement, sans intérêt et sans but, et puis ces autres heures où il me fallait jouer un rôle de poupée, ou de moins encore. J'avais essayé de rendre mon boudoir agréable et de décider Hamdi à y passer ses heures de liberté. Je lisais les journaux, je causais avec lui des choses du palais et de l'armée, je tâchais de découvrir ce qui l'intéressait pour apprendre à en parler. Mais non, cela dérangeait ses idées héréditaires, je le vis bien. Tout cela, disait-il, était bon pour les conversations entre hommes, au Silanlik. Il me demandait que d'être jolie et amoureuse. Il me le demandait tant qu'il me le demanda trop. Mais une qui devait savoir l'être amoureuse, c'était Durdané. Dans la famille, on l'admirait pour sa grâce, une grâce de jeune panthère qui faisait ondoyer tous ses mouvements. Elle dansait le soir, jouait du luth. Elle parlait à peine, mais souriait toujours, d'un sourire à la fois prometteur et cruel, qui découvrait ses petites dents pointues. Souvent, elle entrait chez moi, pour me tenir compagnie, soi-disant. Oh, le dédain qu'elle affichait alors pour mes livres, mon piano, mes cahiers, mes lettres. Loin de tout cela, elle m'entraînait toujours dans l'un des salons à la turque pour s'étendre sur un divan et fumer des cigarettes en jouant avec un éternel miroir. À elle, qui avait été mariée et qui était jeune, je pouvais, croyais-je, dire mes peines. Mais elle ouvrait ses grands yeux d'eau, éclatait de rire. « Mais de quoi peux-tu te plaindre? Tu es jeune, jolie, et tu as un mari que tu finis par aimer. »« Non, répondais-je, il n'est pas à moi, puisque je n'ai rien de sa pensée. »« Mais que t'importe sa pensée? Tu l'as, lui, et tu l'as à toi seul. » Elle appuyait ses yeux herniers beaux, les yeux mauvais. Un vrai chagrin pour la mère de Hamdi était que je n'eusse pas d'enfant au bout d'une année de mariage. Certes, disait-elle, on m'avait jeté un sort. Et je refusais de me laisser conduire aux sources, aux mosquées, vers les derviches réputés pour conjurer de tels maléfices. Un enfant, non, je n'en voulais point. Si par malheur il nous était né une petite fille, comment l'aurais-je élevée? En oriental, comme Durdané, sans aucun but dans la vie que les chansons et les caresses, ou bien comme nous l'avions été, Zaïd Melek et moi-même, et ainsi la condamnée à cruellement souffrir. Voyez-vous, André, je le sais bien qu'elle est inévitable, notre souffrance, que nous sommes l'échelon, nous et sans doute celles qui vont immédiatement suivre, l'échelon par lequel les musulmanes de Turquie sont appelés à monter et à s'affranchir. Mais une petite créature de mon sang, et que j'aurais bercée dans mes bras, l'avouer à ce rôle sacrifié, oh, je ne m'en sentais pas le courage. Hamdi, à cette époque-là, avait l'intention bien arrêtée de demander un poste à l'étranger, dans quelque ambassade. « Je t'emmènerai, bon, promettait-il, et là-bas, tu vivras de la vie des Occidentales, comme la femme de notre ambassadeur à Vienne ou comme la princesse Éminée en Suède. » Je pensais donc qu'alors, seul dans une maison plus petite, notre existence deviendrait forcément plus intime. Je pensais aussi qu'à l'étranger, il serait content, peut-être fier, d'avoir une femme cultivée au courant de toutes choses. Et comme je m'y appliquais à être au courant, toutes les grandes revues françaises, je les lisais, tous les grands journaux et les romans et les pièces de théâtre. C'est alors, André, que j'ai commencé à vous connaître d'une manière si profonde. Jeune fille, j'avais déjà lu Medjé et quelques-uns de vos livres sur nos pays d'Orient. Je les ai relus pendant cette période de ma vie, et j'ai mieux compris encore pourquoi nous toutes, les musulmanes, nous vous devons de la reconnaissance et pourquoi nous vous aimons plus que tant d'autres. C'est que nous nous sommes trouvés en intime parenté d'âme avec vous par votre compréhension de l'islam. Oh, notre islam faussé, méconnu, auquel pourtant nous restons si fidèlement attachés, car ce n'est pas lui qui a voulu nos souffrances. Ô notre prophète, ce n'est pas lui qui nous a condamnés au martyre qu'on nous inflige. Le voile qu'il nous donna jadis était une protection, non un signe d'esclavage. Jamais, jamais il a entendu que nous ne fussions que des poupées de plaisir. Le pieux imam qui nous a instruites dans notre saint livre nous l'a nettement dit. Eh bien, vous, dites-le vous-même, André. Dites-le pour l'honneur du Coran et pour la vengeance de celles qui souffrent. Dites-le enfin, parce que nous vous aimons. Après vos livres d'Orient, il m'a fallu tous les autres. Sur chacune de leurs pages est tombée une larme. Les auteurs très lus en décrivant, songent-ils à l'infinie diversité des âmes où l'on ira plonger leurs pensées? Pour les femmes occidentales qui voient le monde, qui y vivent, les impressions produites par un écrivain pénètrent sans doute moins avant. Mais pour nous, les éternellement cloîtrés, vous tenez le miroir qui le reflète, ce monde à jamais inconnu. C'est par vous que nous le voyons, et c'est à travers vous que nous sentons, que nous vivons. Ne comprenez-vous pas alors que l'écrivain aimé devienne une partie de nous-mêmes? Je vous ai suivi partout autour de la terre, et j'ai des albums pleins de coupures de journaux qui parlaient de vous. J'en ai entendu dire beaucoup de mal que je n'ai pas cru. Bien avant de vous avoir rencontré, j'avais exactement pressenti l'homme que vous deviez être. Mais quand je vous ai connu enfin, mais je vous connaissais déjà, quand vous m'avez donné vos portraits, mais André, je les avais tous, donnant au fond d'un coffret secret dans un sachet de satin. Et après cet aveu, vous demanderiez à nous revoir? Non, ces choses se disent seulement à l'ami qu'on ne reverra jamais. Mon Dieu, ma petite histoire de mariage, combien m'en voici éloigné. J'en étais, je crois, à la fin de l'hiver qui suivit la belle fête de mes noces. Un long hiver cette année-là, Istanbul, 2 mois sous la neige. J'avais beaucoup pâli et je languissais. La mère de Handi, Emire Hanum, devinait bien d'ailleurs que je n'étais pas heureuse. Elle s'inquiéta, paraît-il, de me voir si blanche, car un jour les médecins furent mandés, et par leur conseil, elle m'envoya passer 2 mois aux îles, les îles des Princes, dans la mer de Marmara. À Constantinople, on dit les îles, où vos amis Zeyben et Belek venaient déjà de s'installer. Vous les connaissez, nos îles, et les douceurs de leur printemps. C'est l'amour de la vie et l'amour de l'amour qu'on y respire. Dans cet air pur, sous les pins qui embaument, je me sentais renaître. Les mauvais souvenirs, les notes fausses de ma vie de femme, tout se fondit en une langueur tendre. Je me jugeais folle d'avoir été auprès de mon mari, si compliquée, si exigeante. Ce climat et cet avril m'avaient changé. Par les soirs de clair de lune, dans le beau jardin de notre villa, je me promenais seul, sans autre désir, sans autre rêve, que d'avoir près de moi mon Hamdi et son bras autour de ma taille et de n'être rien qu'une amoureuse. Je sentais le regret amer des baisers que je n'avais pas su rendre, la nostalgie des caresses qui m'avaient ennuyé. Et avant le défilé fixe, sans prévenir, je repartis pour Istanbul, suivi seulement de mes esclaves. Le bateau qui me ramenait, retardé par des avaries, n'arriva qu'à la nuit close. Et vous savez que nous n'avons pas le droit, nous autres musulmanes, d'être dehors après le coucher du soleil. Il était bien 9 heures quand j'entrai sans bruit dans notre hôtel. Hamdi, à cette heure-là, devait être au Selamlik avec son père et ses amis, comme d'habitude. Ma belle-mère, sans doute, enfermée à méditer son Coran, et ma cousine en train de se faire dire son horoscope par quelque esclave habile à lire dans le marc de café. Je montai donc tout droit chez moi, et en entrant dans ma chambre, je ne vis rien d'autre que Durdané entre les bras de mon mari. Vous direz, André, qu'elle est bien banale, mon aventure est très courante en Occident. Aussi ne voulais-je compter que pour la suite qu'elle comporte. Mais je suis fatigué, ami que je ne dois plus revoir. Et cette suite sera pour demain. Jane Anne. Chapitre 20. Cependant, le mois de juillet tout entier s'écoula sans que la suite annoncée parvînt à André Léry, non plus qu'aucune autre nouvelle des trois petites ombres noires. Comme tous les riverains du Bosphore à cette saison, ils vivaient beaucoup sur l'eau, en va-et-vient de chaque jour entre l'Europe et l'Asie. Étant au moins aussi oriental qu'un turc, il avait son caïc, et ses rameurs portaient le traditionnel costume, chemise en gaze de brousse aux manches flottantes et veste en velours brodé d'or. Le caïque était blanc, long, effilé, pointu comme une flèche, et le velours délivré était rouge. Un matin, dans cet équipage, il longeait la rive asiatique, parcourant d'un regard distrait les vieilles demeures avancées tout au bord, les fenêtres closes des harems, la retombée des verdures par-dessus les grilles, des mystérieux jardins, quand il vit venir devant lui une barque frêle où ramaient trois femmes drapées de soie blanche, un eunuque redingote correctement boutonnée se tenait assise à l'arrière et les trois rameuses donnaient toute leur force comme pour une joute. Elles le croisèrent de près et tournèrent la tête vers lui. Il constata qu'elles avaient des mains élégantes, mais les voiles de mousseline étaient baissés sur les visages, ne laissant deviner rien. Et il ne douta point d'avoir rencontré là ces trois petits fantômes noirs, qui étaient devenus avec l'été des fantômes blancs. Et le lendemain, elles lui écrivirent. Le 3 août 1904. Depuis 2 jours, vos amis sont revenus s'installer au Bosphore, côté d'Asie. Et hier matin, elles étaient montées en barque, ramant elles-mêmes, comme c'est leur habitude, pour aller vers Pacha Bache, où c'est plein de murs dans les haies et plein de bleuets dans l'herbe. Nous ramions, et au lieu du tchatchaf et du voile noir, nous n'avions qu'un yéldiné de soie claire et une écharpe de mousseline autour de la tête. Au Bosphore, à la campagne, on nous le permet. Il faisait beau, il faisait jeune, un vrai temps d'amour et d'aube de vie. L'air était frais, léger, et les avirons dans nos mains ne pesaient pas plus que des plumes. Au lieu de jouir paisiblement de la belle matinée, je ne sais quelle ardeur folle nous avait prise de nous hâter, et nous faisions voler notre barque sur l'eau comme à la poursuite du bonheur ou de la mort. Et ce n'est ni la mort ni le bonheur que nous avons attrapé dans cette course, mais notre ami qui faisait son pacha dans un beau caïque aux rames rouges et dorées. Et moi, j'ai croisé en plein aux yeux qui regardaient dans la direction des miens sans les voir. Depuis notre retour ici, nous sommes un peu grisés, comme des captives qui sortiraient de cellules pour reprendre la prison simple. Si vous saviez, malgré la magnificence des roses, ce que c'était là-bas d'où nous venons. Quand on est comme vous, quelqu'un de l'Occident fiévreux et libre, est-on capable de sentir l'horreur de nos existences mortes, de nos horizons où n'apparaît qu'une seule chose, aller là-bas, dormir à l'ombre d'un cyprès, au cimetière d'Eyoub, après que l'imam aura bien dit ses prières qu'il faut. Jane Anne. Nous vivons comme ces verreries précieuses, vous savez, que l'on tient emballées dans les caisses pleines de son. Tous les chocs, on s'imagine aussi nous les éviter, mais nous arrivent quand même, et alors les cas survivent, avec les deux morceaux en perpétuel contact, nous font un mal lourd, profond et horrible. Zayn Beb. Je suis la seule personne de bon sens dans le trio, ami André. Vous en êtes certainement déjà aperçu. Les deux autres, ceci tout à fait entre nous, n'est-ce pas, sont un peu maboules, surtout le Jane Anne, qui veut bien continuer à vous écrire, mais ne plus vous revoir. Heureusement que je suis là, moi, pour arranger les choses. Répondez-nous à l'ancienne adresse. Madame Zaïdé, vous vous rappelez? Après-demain, nous avons une amie sûre qui doit aller en ville et passer à la poste restante. Mélec. Chapitre 21. André le récrivit sur l'heure. À Djenan, il disait « Ne plus vous revoir, ou mieux ne plus entendre votre voix, car je ne vous ai jamais vu. Et cela parce que m'avait fait une gentille déclaration d'amitié intellectuelle, mais quel enfantillage! J'en reçois bien d'autres, allez, et ça ne m'émotionne pas du tout. » Il tenait de prendre la chose en badinage et de se confirmer dans un rôle de vieil ami, très aimé, un peu paternel. Dans le fond, il était inquiet des résolutions extrêmes que cette petite âme fière et obstinée était capable de prendre. Il ne s'y fiait pas, et sentait d'ailleurs qu'elle lui était déjà très chère, et que de ne plus la revoir assombrirait tout son été. Dans sa lettre, il réclamait aussi la suite de l'histoire promise, et en finissant, comptait, pour l'acquis de sa conscience, comment par hasard il les avait toutes les trois identifiées. Le surlendemain, elles répondirent. Oh, que vous nous ayez identifiés est un malheur. Ces amis dont vous ne connaîtrez jamais le visage, vous intéressent-elles encore, maintenant que leur petit mystère est usé, percé à jour? Mais la suite de mon histoire, oh, cela rien de plus facile, vous l'aurez. Nous revoir, André, c'est moins simple. Laissez-moi réfléchir. Jenan. Eh bien, moi je vais m'identifier à fond, en vous apprenant où est notre demeure. Quand vous descendez le Bosphore, aux côtés d'Asie, dans la seconde crique après Tchibouti, il y a une mosquée. Après la mosquée, un grand yali très vieux style, très grillagé, pompeux et triste, avec toujours quelque aimable nègre en redingote qui rôde sur le quai étroit. C'est chez nous. Au premier étage, qui s'avance en encorbellement sur la mer, les 6 mètres, fenêtres de gauche, défendues par de farouches quadrillages, sont celles de nos chambres. Puisque vous aimez cette côte d'Asie, passez-la de préférence et regardez à ces fenêtres sans regarder trop. Vos amis qui reconnaîtront de loin votre caïque montreront le bout de leurs doigts par un trou en signe d'amitié, ou bien le coin de leur mouchoir. Ça s'arrange avec Jenan et comptez sur une entrevue à Istanbul pour la semaine prochaine. Mélec. Il ne se fit point prier pour passer là. Le lendemain, précisément, se trouvait être un vendredi, jour de promenade élégante aux eaux douces d'Asie, où il ne manquait jamais de se rendre, et la vieille demeure de Jenan, sans doute très facile à reconnaître, était sur le chemin. Étendu dans son caïque, il passa aussi près que la discrétion put l'y autoriser. Le yali, tout en bois, suivant la coutume turque, un peu déjeté par le temps et peint à l'ocre sombre, avait grand air, mais combien triste et secret. Par la base, il baignait presque dans le Bosphore, et les fenêtres de ses amies captives surplombaient l'eau marine qu'agitait l'éternel courant. Derrière, c'étaient des jardins hauts murés qui montaient se perdre dans les bois du coteau voisin. Sous la maison s'ouvrait une de ces espèces d'antres voûtées qui étaient d'usage général dans le vieux temps pour rentrer les embarcations des maîtres, et André, comme il approchait, on vit sortir un beau caïque équipé pour la promenade, rameur en veste de velours bleu brodé d'or, et long tapis de même velours brodé pareillement qui traînait dans l'eau. Mais irait-elle aux eaux douces, elle aussi, ses petites amies? Cela en avait tout l'air. Il passa, en jetant un coup d'œil au grillage indiqué. Des doigts fins, chargés de bagues, en sortirent, et le coin d'un mouchoir de dentelle. Rien qu'à la façon enfantine de remuer ces doigts-là, et de faire danser ce bout de mouchoir, André tout de suite reconnut Mélèque. À Constantinople, il y a des eaux douces d'Europe. C'est dans les arbres, les prairies, une petite rivière où l'on vient en foule les vendredis de printemps. Mais il y a les eaux douces d'Asie, une rivière encore plus en miniature, presque un ruisseau, qui coule des collines asiatiques pour se jeter dans le Bosphore, et où l'on se réunit tous les vendredis d'été. À l'heure où André s'y rendait aujourd'hui, quantité d'autres caïques qui venaient aussi des deux rives, les uns amenant les dames voilées, les autres des hommes en fez rouge. Au pied d'une fantastique citadelle du Moyen-Âge sarrasin, hérissée de tours et de créneaux, et près d'un somptueux kiosque au quai de marbre, appartenant à Sa Majesté le Sultan, s'ouvre ce petit cours d'eau privilégié qui attire chaque semaine tant de belles mystérieuses. Avant de s'engager là, entre les berges de roseaux et de fougères, André s'était retourné pour voir si vraiment elle venait aussi, ses amis, et il avait cru reconnaître, là-bas, loin derrière lui, leurs trois silhouettes en charsaf noir et la livrée bleue et or de leur batelier. Déjà beaucoup de monde quand il arriva. Du monde sur l'eau, des barques de toutes formes et des livrées de toutes couleurs, du monde alentour, sur ces pelouses presque trop fines et trop jolies qui s'arrangent sur l'amphithéâtre, comme exprès pour les gens qui veulent s'asseoir et regarder ces barques passer. Ça et là, de grands arbres à l'ombre desquels des petits cafés venaient de s'établir, et où d'indolents fumeurs de narguilé avaient étendu des nattes sur l'herbe pour s'y reposer à l'orientale. Et des deux côtés, les collines boisées, touffues, un peu sauvages, enfermaient tout cela entre leurs pentes délicieusement vertes. C'étaient des femmes, surtout, qui garnissaient le haut des gradins naturels, sur les deux charmants petits rivages, et rien n'est aussi harmonieux qu'une foule de femmes turques à la campagne, sans chaf-chaf, sombre comme à la ville, mais en longs vêtements toujours d'une seule couleur, des roses, des bleus, des bruns, des rouges, chacune ayant la tête uniformément enveloppée d'un voile en mousseline blanche. L'étrangeté amusante de la promenade, c'est cet encombrement même sur une eau si tranquille, si enclose et enveloppée de verdure, avec tant de paires de jolis yeux qui observent alentour par la fente des voiles. Souvent on n'avance plus, les avirons se croisent, se mêlent, les rameurs crient, les caïques se frôlent, et on est stationnaire les uns près des autres, avec tout loisir de se regarder. Il y a des dames sans visage qui restent une heure rangées contre la berge. Leurs caïques presque dans les joncs et les fleurs d'eau, et qui détaillent avec un face-à-main ce qui passe. Il en est d'autres qui ne craignent pas de se lancer dans la mêlée, mais toujours impassibles et énigmatiques sous le voile baissé, tandis que se démènent leurs bateliers chamarrés d'or. Et si l'on fait 500 ou 600 mètres à peine, en remontant la gentille rivière, on est dans l'épaisseur des branchages, entre des arbres qui se penchent sur vous, on touche les galets blancs du fond, il faut rebousser chemin, alors on tourne à grand-peine, dans l'étroit caïque à de longueur, et on redescend le fil de l'eau, mais pour le remonter ensuite, et puis le redescendre, comme qui ferait les 100 pas dans une allée. Quand son caïque eut tourné, dans la petite nuit verte où le ruisseau finit d'être navigable, André songea, je vais sûrement croiser mes amis qui ont dû arriver aux eaux douces quelques minutes après moi. Il ne regarda donc plus les femmes assises par groupes sur l'herbe, plus les paires d'yeux noirs, gris ou bleus, que montraient toutes ces têtes enveloppées de blanc. Il ne s'occupa que de ce qui arrivait à sa rencontre sur l'eau. Un défilé encore si joli dans son ensemble, bien que ce ne soit déjà plus comme au vieux temps et qu'il faille pourtant tourner la tête pour ne pas voir les prétentieuses yoles américaines des jeunes Turcs dans le train, ni les vulgaires barques de louages où des levantines exhibent d'ahurissants chapeaux. Cependant, les caïques dominent encore, et il y en avait aujourd'hui de remarquables, avec leurs beaux rameurs aux vestes de velours très dorées, et là-dedans passaient, à demi étendues, des dames en tcharchaf plus ou moins transparents, et quelques grandes élégantes, en yachmak comme pour se rendre à Izdir, laissant voir leur front et leurs yeux d'ombre. Au fait, comment donc n'était-elle pas aussi en yachmak, ces petites amies, des fleurs d'élégance pourtant, au lieu d'arriver ici toutes noires, telles qu'ils les avaient aperçues là-bas? Sans doute à cause de l'obstination de Djenan à rester pour lui une invisible. À un détour de la rivière, elles apparurent enfin. C'était bien cela. Trois sveltes fantômes sur un tapis de velours bleu, qui accrochait les algues, entraînant dans l'eau ses franges d'or. Trois, c'est beaucoup pour un caïque. Deux étaient royalement assises à l'arrière, sur la banquette de velours, le même velours que le tapis et la livrée des rameurs, les aînées sans doute, celles-là, et la troisième, la plus enfant, se tenait accroupie à leurs pieds. Elles passèrent à le toucher. Il reconnut d'abord, de si près, sous la gaze noire qu'aujourd'hui n'était pas triple, ses yeux rieurs de Mérec, entrevus un jour dans un escalier, et regarda vite les deux autres assises aux bonnes places. L'une avait aussi un voile semi-transparent qui permettait de deviner presque le visage tout jeune, d'une finesse et d'une régularité exquises, mais sans encore les yeux dans l'imprécision. Il n'hésita pas, ce devait être Zeyneb, qui consentait enfin à être moins cachée. Et la troisième, aussi parfaitement indéchiffrable que toujours, c'était Djenan. Il va sans dire, ils ne changèrent ni un salut ni un signe. Seul Melek, la moins sévèrement voilée, lui sourit, mais si discrètement, qu'il fallait être vraiment tout prêt pour le voir. Deux autres fois encore, ils se croisèrent, et puis ce fut le temps de s'en aller. Le soleil n'éclairait bientôt plus que la cime des collines et des bois. On sentait la fraîcheur délicieuse qui montait de l'eau avec le soir. La petite rivière et ses entours se dépeuplaient peu à peu pour redevenir solitaires jusqu'à la semaine prochaine. Les caïques se dispersaient sur tous les points du Bosphore, ramenant les belles promeneuses qui, avant le crépuscule, doivent être de retour et mélancoliquement enfermées dans tous ces harems disséminés le long du rivage. André laissa partir ses amis bien avant lui, de peur d'avoir l'air de les suivre, puis rentra en rasant le bord asiatique très lentement pour laisser reposer ses rameurs et voir se lever la lune. Chapitre 22. Djenan à André. Le 17 août 1904. Vraiment, André, vous tenez à la suite de ma petite histoire? Oh, c'est pourtant une bien pauvre aventure que j'ai commencé de vous conter là. Mais combien fait mal un amour qui meurt? Ah, s'il mourait du moins tout d'un coup! Mais non, il lutte, il se débat, et c'est cette agonie qui est cruelle. Parce que de mes mains mon petit sac tomba, au bruit d'un flacon à parfum qui se brisait par terre, Durdané tourna vers moi la tête. Elle ne fut pas troublée. Ses yeux couleur d'eau s'ouvrirent, et elle me fit son joli sourire de panthère. Sans un mot, elle et moi nous regardions. Hamdi encore ne voyait rien. Elle avait un bras passé autour de son cou, et doucement, elle le força lui aussi à tourner la tête. « Djenan, dit-elle d'une voix indifférente, Oh, je ne sais ce qu'il fit, car je me sauvai pour ne plus voir. D'instinct, c'est auprès de sa mère que j'allais me réfugier. Elle lisait son Coran, et d'abord gronda d'être interrompue dans sa méditation, puis se leva effarée pour aller vers eux, me laissant seul. Quand elle revint, je ne sais combien de minutes après, « Rentre dans ton appartement, me dit-elle, avec une douceur tranquille. Va, ma pauvre petite, ils n'y sont plus. » Dans mon boudoir, seul, les portes fermées, je me jetais sur une chaise longue et j'y pleurais jusqu'à m'endormir épuisé. Pour ensuite, à l'aube, se réveille, retrouver cela dans sa mémoire, recommencer à penser, se dire qu'il faut prendre un parti. J'aurais voulu les haïr et il n'y avait en moi que de la douleur, pas de la haine. De la douleur et de l'amour. Il était grand matin, le jour commençait à peine. J'entendis des pas s'approcher de ma porte, ma belle-mère entra, et je vis d'abord que ses yeux avaient pleuré. « Durdané est parti, me dit-elle, je l'ai envoyé loin d'ici, chez une de mes parentes. » Puis, s'asseyant près de moi, elle ajouta que ces choses arrivent tous les jours dans la vie, que les caprices d'un homme ont moins de conséquences que ceux du vent, et que je devais rentrer dans ma chambre, me faire très belle, et sourire à Hamdi ce soir, quand il rentrerait du palais. Il était très malheureux, paraît-il, et ne voulait pas m'approcher avant que je fusse consolé. Dans l'après-midi, on m'apporta des blouses de soie, des dentelles, des éventails, des bijoux. Alors, je priais seulement qu'on me laissât seul dans ma chambre. Je voulais essayer de voir clair au fond de moi-même. Pensez donc que la veille, j'étais rentré au harem toute vibrante d'un sentiment nouveau. J'y avais apporté tout le printemps des îles, ses parfums et ses chansons, et les baisers cueillis là-bas dans l'air et tout le frisson d'un réveil amoureux. Le soir, Hamdi vint chez moi. Tranquille, un peu pâle. Tranquille moi-même, je lui demandais simplement de me dire la vérité. M'aimait-il encore ou non? Je serais retourné chez ma grand-mère pour le laisser libre. Il sourit et me prit dans ses bras. « Mais quel enfant tu es !» me dit-il. « Voyons, pourrais-je cesser de t'aimer ?» Et il me couvrait de baisers, me grisait de caresses. Je tentais pourtant de demander comment il avait pu aimer l'autre, s'il m'aimait toujours. Oh, André, alors, j'ai appris à juger les hommes, oh, ceux de chez nous du moins. Celui-là m'aimait même pas le courage de son amour. Cette dure dans les mains, non, il ne l'aimait point. Une fantaisie seulement, à cause de ses prunelles vertes, de son corps onduleux lorsqu'elle dansait le soir. Et puis elle prétendait connaître des arts subtils pour ensorceler les hommes, et il avait voulu tenter l'épreuve. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce que cela pouvait bien me faire? Sans ma rentrée à l'improviste, l'aurais-je même su jamais? Oh, de l'entendre! Quelle pitié, quel dégoût au fond de moi-même! Pour elle, pour lui et pour moi, qui voulais pardonner! Je souffrais moins, cependant, depuis que j'étais renseigné. Ainsi donc, ce corps souple et ses yeux d'eau, c'était là tout ce qu'Andy avait aimé chez l'autre. Eh bien, je me savais plus joli qu'elle. Moi aussi, j'avais les prunelles vertes, d'un vert de mer plus sombre et plus rare que le sien, et s'il suffisait avec lui d'être jolie, amoureuse, j'étais les deux à présent. Et la campagne de reconquête commença. Oh, ce ne fut pas long. Le souvenir de Durdané ne posa plus lourd bientôt sur la mémoire de son amant. Mais jamais de ma vie je n'ai connu de jour plus lamentable. Je sentais tout ce qui était en moi de haut et de pur s'en aller, s'effeuiller comme des roses qui se fanent près du feu. Je n'avais plus une pensée en dehors de celle-ci. lui plaire, lui faire oublier l'amour de l'autre dans un amour plus grand. Mais bientôt, quelle horreur de m'apercevoir qu'avec le mépris croissant de moi-même, me venait peu à peu la haine de celui pour qui je m'avilissais, car j'étais devenu tout à fait uniquement une poupée de plaisir. Je ne songeais qu'à être belle, à l'être chaque jour d'une manière différente. À pleine caisse, arrivée de Paris, les toilettes du soir, les déshabillés, les parfums, les fards, tous les artifices de la coquetterie d'Occident et ceux de notre coquetterie orientale étaient devenus mon seul souci. Je n'entrais plus jamais dans mon boudoir, par crainte des reproches muets de mes livres délaissés. Là flottaient des pensées si différentes, hélas, de celles d'à présent. Nadjena, l'amoureuse, avait beau faire, elle pleurait sur la Jenan d'autrefois, qui avait essayé d'avoir une âme. Et comment vous exprimer cette torture, quand je sentis enfin bien nettement que mes caresses étaient fausses, que mes baisers mentaient, et que chez moi, l'amour n'était plus. Mais il m'aimait, lui, maintenant, avec une ardeur qui devenait pour moi une épouvante. Et quel parti prendre pour échapper à ses bras? Mais que faire pour ne pas prolonger cette honte? Je ne vis d'autre issue que la mort. Et je voulus la voir là, toujours préparée, et tout près de moi, sur cette table de toilette, devant laquelle à présent j'étais constamment assise. Oh, une mort bien douce et prompte, à portée de ma main, dans un flacon d'argent, pareil à mes flacons de parfum. C'est là que j'en étais quand, un matin, entrant dans le salon de ma belle-mère, Émir et Haroum, je trouvai deux visiteuses qui remettaient leur tchatchaf pour partir. Durbané et la tante éloignée qui en avait pris charge. Elle souriait, comme toujours, cette dure d'année, mais aujourd'hui avec un petit air de triomphe, tandis que les deux vieilles dames paraissaient bouleversées. Moi, au contraire, je me sentais si calme. Je remarquais que sa robe en drap beige était un peu flottante, que sa taille semblait épaissie et ses mouvements plus lourds. Elle acheva cependant de fixer son tchatchaf, son voile, nous salua et partit. « Mais qu'est-elle venue faire ?» demandai-je simplement, quand nous fûmes seuls. Émir et Hanoum me fit asseoir près d'elle en me tenant les mains. Hésita avant de répondre, et je vis des larmes couler sur ses rides. Cette dure d'année allait avoir un enfant, et il fallait que mon mari l'épousât. Une femme de leur famille ne pouvait être mère sans être épousée, et d'ailleurs une enfant de Handi avait droit à sa place dans la maison. Elle me disait cela en pleurant et m'avait prise dans ses bras. Mais avec quelle tranquillité je l'écoutais. C'était la délivrance, au contraire, qui venait à moi quand je me croyais perdu. Et je répondis aussitôt que je comprenais tout cela très bien, qu'Amdi était libre, que j'étais prêt à divorcer sur l'heure sans en vouloir à personne. « Divorcer ? » reprit-elle avec une explosion de larmes. « Divorcer, mais tu veux divorcer ? Mais mon fils t'adore. Mais nous t'aimons tous ici. Mais tu es la joie de nos yeux, pauvre femme. En quittant cette maison, elle est la seule que j'ai regrettée. » Pour me retenir, elle commença de me citer l'exemple des épouses de son temps, qui savaient être heureuses dans des situations semblables. Elle-même n'avait-elle pas eu à partager l'amour du pacha avec d'autres? Dès qu'avait pâli sa beauté, n'avait-elle pas vu une, deux, trois jeunes femmes se succéder au harem? Elle les appelait ses sœurs. Jamais aucune ne lui avait manqué d'égard. Et c'était toujours à elle-même que revenait le pacha, quand il avait une confidence à faire, un avis à demander, ou bien quand il se sentait malade. Et de tout cela avait-elle souffert? À peine, puisqu'elle ne se souvenait plus que d'un seul chagrin dans sa vie. C'était quand mourut la petite Saïdia, dernière de ses rivales, en lui confiant son bébé. Oui, le plus jeune frère d'Amdi, le petit Ferid, n'était pas son propre fils à elle, mais le fils de la pauvre Saïda. C'est du reste à cette heure que je l'apprenais. Durdané devait faire le lendemain sa rentrée dans le harem. Que m'importait cette femme au point où nous en étions? D'ailleurs, Amdi ne l'aimait plus, elle ne voulait que moi. Mais elle était le prétexte qu'il fallait saisir, l'occasion qu'il ne fallait perdre à aucun prix. Pour abréger, par horreur des scènes et plus encore par crainte de Amdi qui s'affolerait, je fissais ostinante ma demi-soumission. À genoux, devant cette mère qui pleurait, je demandais seulement, et j'obtins, d'aller passer 2 mois de retraite à Kassim Pacha, dans ma chambre de jeune fille. J'avais besoin de cela, disais-je, pour me résigner. Ensuite, je reviendrai. Et j'étais parti avant qu'Amdi ne fût rentré d'Ildiz. Et c'est à ce moment-là, André, que vous arriviez à Constantinople. Les 2 mois expirés, mon mari, bien entendu, voulut me reprendre. Et je lui fis dire qu'il ne m'aurait pas vivante. Le petit flacon d'argent ne me quitta plus. Et ce fut une lutte atroce, jusqu'au jour où Sa Majesté le Sultan daigna signer l'iradé qui me rendit libre. Vous avouerai-je que j'ai souffert encore les premières semaines, qu'outre mon attente, l'image de cet homme, ses baisers que j'avais trop aimés et trop haïs, devaient continuer quelque temps à me poursuivre. Aujourd'hui, tout s'apaise. Je lui ai pardonné d'avoir fait de moi presque une courtisane. Il ne m'inspire plus ni le désir ni la haine. C'est fini. Un peu de honte me reste pour avoir cru rencontrer l'amour, parce qu'un joli garçon me serrait dans ses bras. Mais j'ai reconquis ma dignité, j'ai retrouvé mon âme et repris mon essor. Maintenant, répondez-moi, André, que je sache si vous me comprenez, ou bien si, comme tant d'autres, vous me tenez pour une pauvre petite déséquilibrée en quête de l'impossible. Jainan.